je vais prêcher, je vais traiter plus ou moins le même thème. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Et ce matin, c'est un petit peu l'introduction. Donc on va parler de la foi, l'espérance et l'amour. D'accord ? Jésus a dit, il y a trois choses qui demeurent. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Et on fera à chaque fois un de ces thèmes-là. On parlera aussi de la liberté qu'on a en Christ et de comment Dieu nous accompagne. Alors avant de commencer la prédication, j'ai vu Joe et Chloé. Alors là, je suis content. Alors, c'est le premier mariage qu'on a eu pendant le Covid avec Chloé et Joe. Est-ce que c'est juste? Il y en aura un après. Et ceux qui seront après, c'est Emmanuel. Et j'ai oublié le deuxième prénom. Sonia, voilà. Le mariage qui sera le 14, hein, si je ne me trompe pas, le 14 novembre. Donc, Joe et Chloé, information le 18. Il faut que vous soyez là. Dimanche 18, c'est la semaine prochaine. D'accord? Vous me suivez? Donc, vous cochez dans votre annonce, dans vos agendas. Mon père veut spécifiquement prier pour vous et toute l'Église, parce que vous êtes mariés dans des circonstances particulières et pour que l'Église participe vraiment à ce mariage, parce que c'est vrai que c'était... voilà, il n'y avait pas grand monde de l'Église avec le contexte. Et voilà, pour que vous soyez bénis par l'Église entière. Est-ce que ça marche? Donc ça, c'est le 18. Pour Emmanuel et Sonia, le 14, je vous explique la situation. Ils vont se marier à la mairie, c'est bien ça? Et on va faire une petite cérémonie ici au phare, d'accord? Donc on vous expliquera un petit peu tout ça. Donc venez pour les soutenir, parce que c'est des circonstances qui ne sont pas évidentes avec la famille, voilà, c'est compliqué. Comme là actuellement, ce n'est pas plus de 30 personnes, bah, c'est pas simple, d'accord? Mais on va quand même les honorer, on va les bénir, ça se fera le samedi. Donc ils iront à la mairie et puis on fera une petite cérémonie ici. Et voilà, s'il y a des personnes qui peuvent venir pour les soutenir, même si vous ne les connaissez pas encore, c'est un jeune couple vraiment qui aime le Seigneur. Ça marche? Vous me suivez? C'est bon? Impec. Ah, oh là là. Vous m'excusez, j'ai encore des restes, donc je risque de tousser assez régulièrement. Donc vous êtes fichus là, les gars. Hein, j'aurais dû prêcher la semaine prochaine, peut-être. Alors, est-ce que tu peux nous mettre les paroles, Cassandre, s'il te plaît, du premier chant? Ça m'a pas mal interpellé. Et c'est en lien direct avec la prédication. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Cette parole, je veux te rencontrer, elle est importante. Si tu es venu ce matin et que tu es juste là pour voir si la louange est bien, si le prédicateur est sympa et si tu es bien accueilli, eh ben, tu es passé à côté de quelque chose. Parce que si je viens dans la maison de Dieu, c'est parce que je veux le rencontrer. Et ça, j'en viens tout de suite à mon thème, c'est l'espérance. Dans quelle attitude est-ce que tu viens le dimanche matin ? La Bible nous parle de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses que tu espères. Mais si tu espères en rien, tu n'attends pas à vivre des choses de la foi. Si ton espérance est nulle, que c'est juste une habitude, ça ne va pas fonctionner. Dieu s'attend à ce que tu espères en lui, que tu t'attendes à lui. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est avoir une confiance absolue en Dieu. Je viens là, je n'ai pas juste confiance dans le pasteur, je n'ai pas juste l'espoir que quelqu'un me bénisse, que quelqu'un prie pour moi. J'espère en Dieu, j'ai une pleine confiance en Dieu et je viens et je m'attends à ce que Dieu s'occupe de moi et je m'attends aussi à lui accorder toute l'adoration, la louange qui lui est due. Est-ce que c'est juste? Alors, est-ce qu'on est venu dans cette attitude ce matin? C'est un oui religieux, ça. C'était « oui, on va lui faire plaisir ». Moi, je vous dis clairement, il y a des fois, je ne suis pas dans la louange. Parce que j'arrive là, je suis préoccupé. Je suis préoccupé par les circonstances de ma vie. Je suis préoccupé par tout ce qui se passe autour de moi. Et on est humain. Alors, on a du mal à quelque part dire « Seigneur, j'oublie tout et maintenant, j'entre dans la louange ». Et des fois, on va dire « il y a une atmosphère un peu lourde ». Parce qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui viennent dans la même attitude. Alors que Dieu, il attend, il est là, il dit, purée, ils ont travaillé toute la semaine, ils m'ont prié 2-3 fois, ils ont lu un peu la Bible. Mais aujourd'hui, je veux les bénir parce qu'il y a une puissance, il y a une attention particulière quand on se réunit ensemble et que Dieu peut opérer quelque chose. Et parfois, on passe à côté parce que quelque part, notre disposition de cœur, elle n'est pas là. Et on peut limite partir du culte, de la maison de Dieu, avec une frustration. Ah ben mince alors, j'ai pas reçu ce que je voulais, parce que mon attente, elle était là, mais Dieu m'attendait ailleurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou je suis le seul? Ah, voilà. Alors moi, j'aimerais vous parler des barques. Vous savez que Jésus, il aimait bien la barque. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible avec Jésus et la barque. C'est juste ou pas? Oui? Alors, il y a une histoire que j'aime beaucoup. On va lire les trois. Tu me suis, Cassandre, ce ne sera pas la première que je t'ai donnée. Ce sera... Papapam, ce sera Jean 6. Jean 6, verset 17. Attends, qu'est-ce que je te dis? Jean... Jean 6, à partir du verset 17. Je ne t'avais pas donné ça? Alors, étant monté dans une barque, il traversait la mer pour se rendre à Capernaum. Ce n'est pas celui-là. Luc, c'est Luc. Luc 8, versets 22 à 25. Alors, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Alors là, vous êtes dans votre divan, vous allumez la télé, vous appuyez sur le petit truc Netflix et puis boum, il y a Jesus et là vous rentrez, c'est un film Netflix. Vous rentrez dans la barque, hop, ils vont se promener et là il y a un tourbillon qui arrive. Vous imaginez la musique qui se fond sur les eaux, le lac qui se soulève, le truc improbable. Et puis, il y en a un qui est dans la barque, il dort. Et c'est Jésus. Et en fait, il y a quelque chose à comprendre ici. La barque, c'est notre vie. C'est le symbole de notre vie, de voilà, là où on va, les décisions qu'on prend. On prend une direction, on prend un chemin. C'est notre barque, c'est nous, ça nous appartient. Et puis, on invite ce qu'on veut dans notre vie et qui on veut et on va où on veut. Voilà, c'est notre libre arbitre. Et là, on a nos disciples, c'est encore les disciples, c'est pas encore les apôtres, qui prennent la barque et ils prennent Jésus avec eux, parce qu'ils ont invité Jésus dans leur barque. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans la barque? Il dort. C'est quand même... Le mec, il dort. Il pionce bien comme il faut. Et si on ne l'avait pas réveillé, il continuait à dormir. Et moi, c'est ça qui m'impressionne. Il y a un tourbillon, machin. Et vous voyez, il vient dans leur vie, et leur vie, ils la connaissent bien. C'est des pêcheurs de métier, ils connaissent les circonstances. Vous savez, le lac, la mer, ça nous montre aussi les circonstances de la vie. T'as beau connaître toutes choses, t'as beau prévoir ta vie, t'as beau faire des plans, t'as beau te dire à tel âge, j'aurai ça, je vais réussir dans mon métier, je vais faire telle étude, machin. À tout moment, il y a une tornade qui peut souffler. T'as beau être calé, t'as beau avoir toute la connaissance, t'as beau avoir une philosophie, mais moi, à 35 ans, je serai à la retraite, j'aurai des biens, j'aurai ce que je veux, j'aurai telle réussite, j'aurai autant d'enfants, t'as tout prévu, j'aurai eu tel mariage, et puis d'un coup, le vent te balaye. Et ça représente bien la vie. On peut être balayé en un instant, ça c'est la vie. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Quelque part, c'est « je suis dans ta barque, et les circonstances, sache qu'elles ne changeront pas. La vie restera dure. » La vie ne sera pas plus simple en étant chrétien, mais sache qu'à un moment donné, tu auras l'occasion de pouvoir me réveiller. Et c'est là où ça va faire toute la différence. Mais sachez que c'est encore les disciples. C'est-à-dire que Jésus est bien à côté d'eux et ils mettent leur confiance dans le Jésus qu'ils peuvent voir. Ils mettent leur confiance dans le Jésus qu'ils ont vu opérer des miracles, qu'ils l'ont vu guérir des malades, ils l'ont vu faire de grandes choses. Et ils espèrent en lui. Et leur espérance à ce moment-là, c'est de dire que Jésus va changer la face du monde. Il est là, il est avec nous, et avec ce qu'il fait, à un moment donné, il va être roi, il va régner sur la terre en tant qu'homme. Et vous voyez, ils ont mis leur espérance dans l'homme Jésus. Et donc là, il est là, c'est facile, il le réveille. Et maintenant, on va lire une autre parabole. Pas une autre parabole, une autre histoire. Donc, tu peux remettre maintenant l'histoire dans Jean. C'est pas Jean. J'ai tout mélangé, pardonnez-moi. Jean 21, c'est pas lui. Donc c'est le Jean 6, verset 17 cette fois-ci. Alors vous allez voir l'histoire avec Pierre qui va marcher sur l'eau. On la connaît bien celle-là. Ayant monté dans une barque, il traversait la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit. Et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent. Chaque fois, il y a du vent. Ils n'ont pas de bol, les mecs. Comme si c'était fait exprès. Et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marcher sur la mer et s'approchant de la barque, ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Dans l'autre évangile, on peut voir que Pierre va marcher sur l'eau. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'on est juste après la multiplication des pains et des poissons. Vous vous souvenez de cette histoire? Jésus, vous avez la foule qui est là, et puis les disciples veulent les renvoyer. Et là, vous allez avoir la bonté, le miracle, où on va avoir la bonté de Jésus qui va multiplier les pains, parce que pour les disciples, c'était maintenant vous avez eu l'enseignement, allez acheter un pain, allez à la boulangerie. Il y a une foule de je ne sais combien de personnes, la boulangerie, elle allait vite être dépassée. Ils n'avaient pas les fours à pain qu'on a aujourd'hui. Pour les filles de boulangère, là-bas, vous imaginez la situation. Et Jésus va faire un miracle. Et là, il nous a dit qu'on voulait faire de Jésus le roi. Il fait un miracle, il est magnifique, on veut en faire le roi, quelqu'un qu'on peut voir de nos yeux, qu'on peut mettre à une certaine position, et là, on va bénéficier de tout ce qu'il est capable de faire. Et Jésus va les renvoyer, et il va monter prier, et là, il envoie ses disciples, déjà, le précéder dans la ville là-bas, et traverser la mer. Et il sait qu'ils vont galérer. À chaque fois, c'est la même histoire. Il les envoie dans la galère. Il les envoie dans la tempête. Il nous est dit qu'ils vont aller, on ne va pas commencer à rentrer dans le côté historique, mais qu'ils ont avancé de 30 stades. En gros, ils avaient plus ou moins 13 kilomètres à faire, et puis ils n'en ont fait que 5 en 9 heures, parce que 9 heures s'est écoulé depuis le moment où Jésus les envoie et le moment où Jésus les rejoint. En 9 heures, ils ont fait 5 kilomètres, parce que c'est la galère. Ils n'avancent pas. Et Jésus se marre. Et vous voyez que Jésus, il est sympa parce que du haut de la montagne, il nous dit qu'il les voit. Il ne les voit pas réellement, mais il sait où ils en sont. Il sait dans quelle situation il est mis, il les a mis. Et il nous a dit aussi qu'il va marcher à côté comme s'il allait les dépasser. Moi, ça me fait toujours rire, ça. Comme s'il allait les dépasser. Bon alors, les gars, ça va? Ça se passe bien? Ben, moi, tranquille. Et il marche sur l'eau. Vous avez besoin de moi ou pas? Vous pouvez demander, Et puis, eux, ils ont peur. Ils voient un fantôme. Un fantôme! Imaginez la situation, c'est Netflix, Et puis il marche là et Jésus est là et Pierre va dire « Ah, c'est Jésus, je veux aller dans l'eau. » Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est qu'au début, Jésus, il vient dans notre barque. Un jour, il vient nous chercher. C'est avoir la foi. La première chose, c'est la parole de Dieu nous dit qu'on reçoit le don de foi, la capacité de croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Vous me suivez encore? Alors, on reçoit cette capacité, on a le don de foi. Allez, je vous le dis toujours, allez taper à la porte de votre voisin et dites-lui, Jésus est ton sauveur, il faut que tu crois. Il va te regarder, il va dire, t'es mignon, mais moi j'ai autre chose à faire que t'écouter. C'est un don de croire. Et la Bible nous dit aussi que Dieu nous attire. Et il nous attire et à un moment donné, on est face, on a cette capacité de croire, mais on fait le choix de s'engager avec Christ ou pas. D'accord ? Quand on fait ce choix, Jésus, il rentre dans notre barque. Il nous bénit, tout va bien. Et puis, on apprend à l'appeler. Jésus, s'il te plaît, j'ai un problème, viens. Et on voit qu'il est bon avec nous. Mais la deuxième étape, c'est maintenant, vas-y tout seul dans ta galère. Et on va voir comment tu vas réagir. Mais je te garde à l'œil. Je te garde à l'œil. Et s'il y a un problème, je vais venir. C'est l'attitude de Jésus. Et Jésus arrive, et puis vous avez Pierre qui est plein de foi. Voilà, on va pas prier sur ça, qui va manifester, on ne va pas prêcher sur ça, mais il va manifester sa foi, il va manifester sa confiance en Christ et il va sortir de la barque. Il va sortir de sa propre vie. Il arrive à sortir des circonstances qui l'entourent. Il arrive à dire, voilà, maintenant c'est une catastrophe dans ma vie, mais je vois Jésus, je sors. Et ça, c'est une preuve d'abandon exceptionnelle. De dire, j'abandonne là tout ce qui ne va pas, parce que là, je le vois, et lui, il est paisible. Parce que Jésus est dans les mêmes circonstances que toi. Mais il prend les choses tout à fait différemment. Et il dit, mets ta confiance en moi. Et là, on voit ce côté foi chez Pierre. Et on voit qu'il est humain, il va commencer à s'enfoncer. C'est un homme qui va laisser les circonstances s'intercaler entre lui et Dieu. Mais quand il met sa foi, il y a nous, il y a les circonstances et il y a Dieu. S'il y a les circonstances entre nous et Dieu, on a du mal à être en relation. Ça marche? Mais quand on enlève les circonstances, qu'on les met derrière et qu'on se met en relation avec Christ directement, là, il se passe des choses. Là, notre foi, elle peut commencer à voir des choses. Et vous allez me dire, mais ça sert à quoi de marcher sur l'eau? Qu'est-ce que ça a changé à la vie de Pierre? Strictement rien. Ça ne sert à rien. Est-ce qu'il est meilleur que les autres qui sont dans la barque? Il n'est pas meilleur. Mais il y a eu une expérience avec Christ. C'est entre lui et Jésus. Ça a été personnel. Et nous, on prie un Dieu vivant. Ce n'est pas le Dieu des morts. C'est le Dieu des vivants. C'est-à-dire qu'il est encore vivant aujourd'hui. Et notre espérance, elle est que quand je crois à Christ, je serai encore vivant avec lui après ma mort. Ça, c'est notre espérance. C'est le Dieu des vivants. Et vous voyez là, ça n'a rien changé avec lui. Mais s'il est encore vivant aujourd'hui, ça veut dire que je peux avoir des expériences avec lui qui seront propres à ma vie, qui vont me construire moi et qui vont changer mon entendement. Et je vais être transformé, la Bible me dit, de gloire en gloire afin d'être à l'image de celui que je suis. Et c'est ça l'important. Je vais vous donner un témoignage. Avec Chanel, c'était il y a... au lancement de Arras, donc c'était il y a combien de temps? L'église d'Arras, 6, 7 ans, 5 ans peut-être. Et alors, pour ceux qui connaissent cette histoire-là, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que c'est une expérience que j'ai vécue avec Christ qui ne sert à rien, mais qui a construit ma relation avec lui. J'ai appris à le connaître. C'est tout ce que ça a servi. On avait notre voiture, notre Mondeo, pour ceux qui se souviennent. Et notre Mondeo, elle ne me posait que des problèmes. Et moi, j'étais frustré parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. J'étais un jeune étudiant, ma femme, on a fait le choix de servir le Seigneur, on a fait le choix de construire notre vie, pas sur notre compte en banque, mais sur ce que le Seigneur nous appelle à faire. On a appris à vivre par la foi, on n'a pas attendu d'avoir un salaire avant d'avoir un bébé. Alors attention, je ne vous dis pas tous de faire ça, mais ça a été comment Dieu nous a poussés. On a vécu des choses difficiles, 1 euro était 1 euro, et puis la voiture tombait en panne, et on mettait de l'argent, et puis on n'avait plus d'argent. J'étais frustré, et j'ai dit, j'en ai ras-le-bol, cette voiture, je ne la réparerai plus. Elle m'énerve. Et puis, on avait la 6e vitesse qui était cassée, complètement cassée. Et là, on roule, vous êtes sur la 1 à 130 km/h en 5e, et là, vous consommez, ça crie, il n'y a rien qui va. Et puis j'étais dans la voiture. Et vous savez, la Bible, elle dit que celui qui espère en l'Éternel, Dieu est bon avec. Et que celui qui le cherche, Dieu est bon avec. C'est une promesse. Celui qui espère en l'Éternel, la bonté de Dieu est sur lui. Et l'espérance, c'est de s'attendre à Dieu. C'est dire, Seigneur, tu es là, tu es dans ma vie, je m'attends à toi. Il faut qu'il se passe quelque chose. En ce moment, c'est trop monotone, ma vie. C'est le quotidien, c'est la routine, je m'endors, il n'y a que mes réalités. Il faut qu'il se passe quelque chose avec toi, il faut que ça change. Vous voyez, moi, j'étais dans une attitude comme ça. J'étais à la recherche de Dieu, je m'en fichais de ma voiture. Et je suis sur l'autoroute, je roule, machin. Et puis, c'est le calme, les enfants sont calmes, c'est rare, hein, mais ils sont calmes. Et puis Chanel, elle regarde les vaches, et puis moi, je suis là, je, Je suis là et dans mon cœur, je suis en train de prier. Je prie, Seigneur. Voilà, on avait vécu deux cultes, un culte le dimanche là le matin, un culte là-bas, on était galvanisés. Et puis je dis, Seigneur, je suis avec Dieu. Je prie à la musique, je loue le Seigneur. En moi-même, vous voyez, j'étais dans l'adoration sans qu'il y ait un mot qui sorte de ma bouche. Mais j'étais dans l'adoration avec mon Dieu. Je disais, Seigneur, viens. Et puis là, j'entends cette voix. Et avec le recul, je peux vous dire que ce n'était pas le Saint-Esprit, ce n'était pas Jésus, c'était la voix du Père. Et j'ai le Père qui me dit, passe ta vitesse avec la foi. Moi, je suis là. Et timidement, je passe ma vitesse. Je repasse la cinquième. Chanel me regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Et la deuxième fois, passe ta vitesse avec la foi, plus insistant. Et là, ça me saisit. Je me dis, il se passe quelque chose là. Et je repasse la deuxième fois. Ça ne va pas. Et là, la troisième fois, la voix du Père, avec autorité mais fermeté. Maintenant, ça, ce n'est pas la foi. Passe ta vitesse avec la foi. Et là, en moi, il y a la foi qui s'est animée. J'ai cru en mon Dieu et j'ai dit, ah ! Et elle s'est passée. Et là, il y a l'amour de Dieu qui m'a rempli. Quand j'y repense, j'ai envie de pleurer. Vous voyez, tellement c'était fort. C'était mon expérience. Et là, ça m'a rempli. J'ai commencé à pleurer. Chanel, elle me regarde. Mais je dis, t'imagines même pas ce qui vient de se passer là. Il n'y a jamais eu de problème avec cette voiture au niveau de la vitesse, j'ai pu la vendre. Elle était certainement en or, cette vitesse. J'aurais dû démonter la boîte. Mais vous voyez, ça a servi à rien. Vous allez me dire, je n'ai pas changé le monde. C'est rien passé d'exceptionnel. Mais ça a construit ma foi. Ça l'a consolidé. Ça a consolidé l'espérance que j'ai en mon Dieu. Et il a été bon envers moi, envers quelque chose dont je ne priais même pas. J'avais dit, c'est tout. Et il m'a montré, même cette petite chose dans ta vie, je peux m'en occuper. Et ça, c'est juste un petit témoignage. On a eu tellement après. Et chacun de vous, vous pouvez vivre des choses comme ça. Avec l'espérance en Dieu. Mais il faut savoir dire, j'en ai ras-le-bol de ma réalité. Seigneur, maintenant, je veux inviter ta vérité dans ma réalité. Parce que ta réalité, ce n'est pas la vérité de Dieu. Quand tu es accablé, quand tu n'es pas bien, quand tu es sous pression, quand tu n'as plus d'espoir, tu es comme complètement vidé. Tu dis, Seigneur, oui, je crois en toi, mais ce n'est plus qu'intellectuel. Tu ne vis plus rien. Et bien là, c'est le moment de dire, Seigneur, voilà mon état et je veux inviter maintenant ta vérité dans ma vie. Parce qu'il faut que ma réalité, elle change. Il faut que ma réalité, ça devienne les actes des apôtres et pas juste quelque chose d'intellectuel. Il faut que ça bouge. Ça marche. Ça ne sert à rien de jeûner de manière légaliste. Seigneur, je vais jeûner, tu vas bénir. Ce qu'il faut, c'est espérer en Dieu. Et c'est lui qui va te pousser à avoir des actes de foi qui vont produire un fruit. La foi produit un fruit, produit des actes. L'espérance te consolide. Dans ta direction. L'espérance, c'est comme c'est dans ton bateau, c'est le gouvernail. C'est j'espère en Christ, je sais où je vais et je crois qu'il est là. Ça marche? Ça, c'est ton gouvernail, l'espérance. Et l'amour, c'est ce que tu es. C'est comment Dieu te transforme. Comment tu vois la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Moi, quand j'ai vu que le Dieu créateur du ciel, de la terre, de l'univers s'est occupé d'Alexis, la petite poussière sur cette terre et qui a touché à ma petite boîte de vitesse. Mais j'ai dit, c'est ce Dieu qui m'aime. Et il t'aime autant. Ça marche? Vous me suivez? On est appelé. Est-ce que vous vous êtes déjà vu dans un miroir? Est-ce que vous vous êtes déjà regardé dans un miroir? Vous savez, les miroirs qui sont passés, qui sont un peu grisés, qui n'ont plus de reflets, les vieux miroirs avec... on ne se voit pas très bien dedans, c'est juste. Dans un miroir brisé, vous voyez juste un reflet de vous-même. Quand vous vous regardez dans un miroir qui fait noir, vous ne voyez que les ténèbres. Quand vous êtes dans un lac et qu'il y a votre reflet, vous ne voyez que votre reflet. Et si l'eau bouge, là, vous ne voyez rien du tout. quand l'eau est trouble, quand l'eau bouge, quand vous êtes quelque part complètement perdu dans votre tête, que vous ne savez pas où vous allez, vous perdez quelque part votre identité. Vous remettez tout en question. Ça peut se produire avec le travail, votre famille, des déceptions. Vous êtes là, mais Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça, c'était juste? Et vous remettez tout en question. Mais Dieu dit, il faut que je puisse grandir en vous, que vous puissiez grandir de gloire en gloire. Et vous voyez, quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous voyez Christ, et Christ, il vous encourage. Il dit, continue, je suis là, t'inquiète pas. Mais il t'envoie. Il t'envoie, au début, il t'a envoyé dans la barque, il dormait avec toi. La deuxième fois, il t'a mis dans la barque, et puis il est passé à côté de l'eau. Et la troisième fois, il t'envoie tout seul dans la nuit, et il dit, voilà. On va lire la dernière histoire avec la barque. Cette fois-ci, c'est Jean 21, 3, 6. Alors Jésus est parti, Jésus a donné sa vie pour nous, pour l'humanité. Il n'y en avait que faire de la politique, il n'y en avait que faire de l'histoire. Ce qui l'intéressait, c'était sauver l'homme. Ça marche. Sauver l'humanité, donner l'espoir, l'espérance et l'amour, c'est ces trois choses qui demeurent. Le reste, ça ne restera pas. Vous pouvez vous engager écologiquement, c'est très bien, mais ça passera. Tout passera. Mais ces trois choses demeurent. Et alors, vous avez nos disciples, ils ont vécu des choses exceptionnelles. Leur foi était basée sur ce qu'ils voyaient, sur ce qu'ils voyaient de Jésus. Jésus meurt, voilà, papa, pipa, papa. Il ressuscite et il s'est montré déjà deux fois. Et là, on va voir qu'il va se montrer la troisième fois. Le fait est que les disciples n'avaient plus d'espérance. Ils ne savaient plus à quoi espérer. Donc Jésus se montre à eux, leur rappelle ce qu'il leur a enseigné, va venir les consolider dans qui ils sont, va faire d'eux des apôtres à ce moment-là. Et là, il vient les voir. Simon-Pierre, il dit, écoutez les mecs, on a perdu notre maître, mais il faut quand même manger, j'ai encore un peu de courage, je vais aller pêcher. Ils lui disent, écoute, on n'a rien à faire, on va venir avec toi. On n'a que ça à faire aujourd'hui. Il y a la séance de 20h au ciné, ça ne m'intéresse pas trop. Et on a faim, on jeûne depuis une semaine. Je vous caricature un peu, mais ils avaient faim. Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Ils connaissent la barque, c'est leur vie. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ce n'est pas possible. Vous savez, quand Julien il est sur son stand de Go Boss et qu'il ne vend pas un costard, il n'est pas bien. Puis Jésus, il passe, et regarde à gauche, 10 clients qui payent, ils sont déjà en train de payer. Vous imaginez, ouais. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ils sont loin, Jésus leur dit, enfants, il les appelle encore enfants. Tout le temps, il leur a dit, hommes de peu de foi, il leur a dit, vous y êtes pas les gars. Et là, maintenant, c'est enfant. C'est déjà bien, Ils ont de la barge. Et ils lui répondirent, enfant, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non, on n'a rien à manger. Pourtant, on est bon dans ce qu'on fait, mais là, ça ne marche pas. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Alors Pierre, lui, il n'est pas possible. Pourquoi il nage? Il a appris à marcher sur l'eau, il nage. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture car il était nu, il faisait chaud, et se jeta dans la mer. Ah, la Bible, c'est quelque chose. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Il a trouvé la force de nager, Pierre. Ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Incroyable. Jésus vient les chercher, encore une fois, dans ce qu'ils connaissent le mieux, dans ce qu'ils maîtrisent le mieux. Il vient les chercher sur le sujet qui domine. Les mecs, jetez à droite. Il ne faut plus vous inquiéter de tout ça. J'ai une autre mission pour vous. Et c'est le moment de saisir votre appel, c'est le moment d'entrer dans ce que j'ai pour vous, mais c'est votre décision. Et ça, c'est ce qui se passe avec nous. On a toute la connaissance dans notre tête. On a tout ce qu'on sait bien avec Jésus. Mais Jésus, si vous calculez un peu dans la Bible, c'était 30% de paroles. Il y avait ces grandes paraboles pour les gens ne comprenaient pas grand-chose. Il y avait 30% de paroles, 30% d'enseignements très clairs pour ses disciples qui ne comprenaient pas tout à fait non plus. Et il y avait 70% de pratiques. 70% de pratiques. Donc il faut se dire, si je consacre 30% à la lecture de la parole, ce n'est pas une doctrine, attention. Eh bien, il faut que j'ai 70% de pratique avec Dieu dans ce domaine-là. Et le problème de la parole de Dieu, c'est que Jésus est vérité et que la vérité, ça ne nous fait pas plaisir. Que la vérité égale à se confronter et que quand tu te confrontes à la vérité, tu n'aimes pas ça parce que ce n'est pas ce que tu as envie d'être, ce n'est pas ce que tu as envie de faire. Ça ne te plaît pas. Quand Dieu il touche à ta susceptibilité, quand Jésus il touche à ton caractère, quand Jésus il touche à tes faiblesses et qu'il dit « mais en fait, je veux t'amener plus loin parce que maintenant, il faut grandir, il faut devenir… » T'étais un enfant maintenant, et c'est Paul qui dira, j'ai laissé ce qui était de l'enfant, et maintenant je fais des choses qui sont des choses d'homme. Il nous dit aussi, Paul, eh bien, il faut qu'on soit à l'état d'homme mature. D'accord ? Et Jésus, il nous pousse, il nous éduque, et il nous donne des vérités. Il te dit, tu es ça, avec plein d'amour. Et maintenant, est-ce que tu acceptes ? Est-ce que tu acceptes qu'on travaille sur ça ? Il ne va jamais te forcer. Il ne va jamais te contraindre. Il va jamais, il va te rappeler des choses, certaines fois, régulièrement. Alex, tu es un peu une feignasse en ce moment. Il faudrait que tu bouges. Alex, cherche-moi un peu plus aujourd'hui. Ouais, mais j'ai autre chose à faire et je suis fatigué. Tu comprends, j'ai travaillé beaucoup et ça me prend la tête. Le problème, c'est quand on continue à raisonner comme ça, on vit avec des mensonges dans notre réalité. On arrive à un point de rupture. Et après, on pleure et on crie à Jésus, « Jésus, j'ai besoin de toi. » Et il faut qu'on apprenne à être l'Église de Dieu, l'Église forte. L'Église qui fait les bonnes décisions, qui prend les bonnes décisions, qui prend des positions pour Jésus, même si c'est dur, même si les circonstances, elles sont contre nous. « Seigneur, j'espère en toi, je suis dans la paix. » Si vous lisez l'histoire avec Jésus dans la barque, c'est la paix. Le titre, ils mettent des titres, hein, c'est… La paix, Jésus, la paix. Jésus, il amène la paix dans une circonstance, c'est incroyable. Ça roule ? Alors, tout ça pour vous dire que c'est des thèmes qu'on va approfondir vraiment chacun, l'un après l'autre. Alors, la foi, Hébreux 11:6, vous la connaissez, hein, tout ce chapitre sur la foi, les héros de la foi, tout ça, ça résonne. 1-2. Ouais. Or, là, c'est moi ? Ok, je vais lire comme ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu viens de manière intellectuelle et religieuse devant Dieu, ce n'est pas le Dieu vivant que tu vas rencontrer. C'est un Dieu gendarme, ça s'appelle la religion, qui va t'imposer des choses que tu ne veux pas faire et qui ne va rien changer à ta vie. Mais le Dieu de vie, c'est le Dieu de foi. C'est Jésus, maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose. Maintenant, il faut que ça change dans ma vie. Il faut que ça bouge. Tu n'es pas juste préoccupé par ta maison et les fuites qu'il y a sur ta toiture. Bien sûr, tu affrontes la vie. Bien sûr, tu affrontes les épreuves, bien sûr, tu prends des décisions, bien sûr, tu es un homme et une femme qui avancent, mais ton espérance, elle n'est pas dans tout ça. Tu fais ce que tu as à faire, mais tu crois que ton Dieu s'occupe de tes affaires. Et tu vas voir sa gloire. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sa bonté qui vient dans ta vie. Vous savez, il y a une grande différence entre la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui courent après la faveur de Dieu, la faveur, la faveur, la faveur, Seigneur bénis-moi, Seigneur fais quelque chose maintenant, Seigneur machin, Seigneur ceci. Et Dieu il fait parce qu'il est bon dans sa souveraineté, il est bon avec ses enfants, c'est un bon père. Et à un moment donné, le problème de la faveur, c'est que la faveur c'est pour un temps. La faveur ça dure un temps, ça t'est bénéfique pendant un temps. Mais la bénédiction, ça perdure de génération en génération. Dieu est le Dieu qui bénit, qui maudit. Il est celui qui peut maudire et qui peut bénir. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je peux bénir ou je peux maudire. Et je choisis de bénir mes enfants, je choisis de bénir ma femme, je choisis de bénir tous ceux qui m'entourent. Et je choisis que Dieu me bénisse. La faveur, c'est bien, mais moi, je préfère la bénédiction. Il est dit qu'on est sauvé par grâce, c'est la faveur imméritée. C'est à un moment donné, Dieu, eh bien, il a déclaré que c'était le moment de manifester sa faveur pour l'humanité. Et il l'a doublé d'une bénédiction qui coule de génération en génération à tous ceux qui croient. Je crois, j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ, je crois en Dieu, au Dieu vivant, pas au Dieu des morts. Et le Dieu vivant peut impacter ma vie, le Dieu vivant peut transformer les circonstances, peut m'aider dans mes circonstances. Le Dieu vivant peut me dire, bah pour l'instant c'est le moment de galérer, mais t'inquiète pas, je vais fendre la mer pour toi. Le Dieu vivant peut dire, attention, j'arrive, je viens te rejoindre. Il fait ce qu'il veut, mais moi je suis disposé, je suis à la recherche. On a dit, je veux te rencontrer. Dans chacune de mes circonstances, je veux te rencontrer. Dans chacune des décisions que je dois prendre, je veux te rencontrer. Parce que tu ne laisses rien au hasard. On joue pas au dé. On a donné notre vie à Dieu. Il connaît le nombre de nos jours. Et maintenant, je dis, Seigneur, voilà, il y a le nombre de mes jours, le temps que je vais passer sur cette terre. Je ne veux pas jouer au dé avec ça. Je veux que tu te manifestes dans ma vie. Je veux te consacrer ma vie. Je veux te consacrer mon corps. Je veux te consacrer mes finances. Je veux te consacrer tout ce que j'ai pour voir ta gloire et pour un jour être avec toi. Ça roule ? Alors, on va se remettre en question. Il est quelle heure ? J'ai dépassé déjà, pardonnez-moi. On va prier 5 minutes, si vous avez encore 5 minutes. Parce que je suis convaincu, et le Seigneur m'a interpellé cette nuit, à 3h du matin, à 4h du matin, à 5h du matin, à 6h du matin. J'étais là et je dis, Seigneur, pourquoi tu me parles de l'espérance? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et le Seigneur, il m'a dit, il y a des gens qui ont perdu l'espoir en moi. Il y a des gens qui ne croient pas que je peux faire quelque chose pour eux. Il y a des gens qui ont baissé les armes. Et je veux t'encourager, Jésus est là. Il dit, mais crois seulement. Un petit grain de moutarde, il peut transformer la situation. Alors on va prier. Est-ce qu'il y a une église qui sait prier ?